Merci de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, chaque mercredi soir sur le 90.5 FM ou via internet sur le www.radion.fr. Ce soir, nous souhaitons vous faire partager le compte-rendu de la 14e édition de la Fête du Livre qui s'est tenue à Autun les 16 et 17 avril dernier et qu'organise avec soin chaque année, avec également beaucoup d'énergie, les bénévoles de l'association Lire en Pays Autunois, présidée par Dominique Goujon. Pour ouvrir notre rendez-vous littéraire, donnons la parole à celui qui fut un des instigateurs du salon de la capitale éduenne avec Rémi Rebérotte, l'actuel maire d'Autun. Ce morvandio d'adoption et de cœur vient de faire paraître son 19e roman aux éditions Albin Michel. Didier Cornaille, puisque c'est de lui dont il s'agit, nous présente Le pays d'où je viens.
Non, ce n'est pas parce que le titre est « Le pays d'où je viens » que c'est autobiographique. Ce n'est pas du tout autobiographique, mais il est vrai que je suis originaire du Nord. Il est vrai que j'ai quitté le Nord pendant tout de même plus de 40 ans. J'en suis parti, j'avais une vingtaine d'années. Et le hasard a fait qu'il y a 3 ans, je suis retourné dans le Nord, j'ai redécouvert mon pays. Mais je dirais plus encore, les gens du pays m'ont redécouvert. Ils sont venus me chercher, j'étais en résidence d'auteur à côté de Bailleul. Et ils sont venus me chercher de façon extraordinaire. Quand on parle de l'accueil des gens du Nord, eh ben, ce n'est pas un vain mot, je peux vous le dire. Je reconnais que pour moi, ça a été un moment très très fort et très important. D'où ce livre, parce que je me suis aperçu que je ne suis plus tout à fait du Nord, l'ayant quitté depuis plus de 40 ans. Il a évolué, le Nord. Et moi, j'ai évolué dans une direction différente, bien sûr. Et j'ai tendance à vouloir retrouver le Nord que j'ai connu, comme les gens du Nord aimeraient bien me retrouver tels qu'ils sont eux maintenant. D'où un petit déphasage, là, tout de même. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas morvandiot, parce que je suis un étranger dans le Morvan. Ça fait 37 ans que j'y habite, je suis un étranger, j'y resterai toujours un étranger. Même si l'autre jour, le cantonnier de mon pays a trouvé le fin mot en me disant « Oh, toi, t'es un étranger, mais maintenant, t'es un étranger du pays. » C'est beau, ça, hein ? Bon. Et donc, il y a ce petit déphasage. Rassurez-vous, ce n'est pas ce qui va me faire me précipiter chez un psychologue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'empêche qu'il y a des moments où on se rend compte qu'on a des hésitations dans la vie, peut-être des moments d'une réflexion un peu particulière, parce qu'on ne sait plus très bien si on est de là ou si on est de là, et s'il est nécessaire d'être de quelque part ou pas nécessaire. Et ça rentre en ligne de compte. Alors, l'intrigue du livre, c'est simplement un personnage, mais ça, c'est à peine si j'ose le dire, parce que c'est terrible. Mais c'est pas moi, c'est pas autobiographique, je précise tout de suite. C'est un brave personnage qui s'est flanqué à une telle cuite, qui se retrouve sur un parking de l'autoroute, complètement avec une gueule de bois carabinée, sur un parking de l'autoroute du Nord, alors qu'il devait prendre l'autoroute du Sud pour revenir dans le Morvan. Il fallait tout de même qu'il s'en tienne une bonne. Et là, il s'aperçoit qu'il avait quelqu'un avec lui. Mais qui ? Un fichu de ce souvenir. Et il retrouve dans le coffre de sa voiture un sac de voyage manifestement féminin. Il se trouve qu'il a des origines dans le Nord. Il s'est dit, c'est peut-être pour ça que j'ai pris l'autoroute du Nord. Et c'est de là qu'il va repartir par hasard. Il fallait que mon personnage arrive par hasard. Qu'il n'ait pas décidé d'aller dans le Nord. Et comme ça, il va y arriver par hasard. Pour redécouvrir son Nord, en même temps qu'il va rechercher qui était cette femme à côté de lui. Cette femme, elle est polonaise. Mais tout ce que je dis là ne découvre pas l'intrigue du livre, rassurez-vous. Elle est polonaise parce qu'il y a beaucoup de Polonais dans le Nord. On le sait, ça, dans la région des mines, il y a énormément de Polonais. Ils sont intégrés depuis 3 ou 4 générations. Les noms restent polonais, mais ils sont français, comme vous et moi, bien sûr. Le jour où la Pologne est redevenue libre, où on a pu, ils se sont tous précipités pour aller retrouver leurs origines. Ce qui prouve bien qu'à plusieurs générations, ça continue de marquer. Et ils ont quelque chose d'assez particulier, tous ces Polonais, c'est assez général chez eux, que ce sont des gens qui culpabilisent terriblement de ce qui s'est passé chez eux pendant la guerre. Ils prennent ça tous sur leurs épaules, comme s'ils étaient individuellement responsables. Et cette personnage est polonaise, est écrivain. Et elle se cherche comme ça. Et à travers ce, cette ignorance pour lui de savoir qui. Sauf qu'il va découvrir ses livres peu à peu. Et peu à peu, il va découvrir. Mais enfin, je ne vais pas tout vous dire, après tout, je vous raconte tout le livre là. Mais c'est vrai, j'en dis pas plus.
Le dernier roman de Didier Cornaille à découvrir prochainement auprès de vos libraires habituels, Le pays d'où je viens, paru chez Albin Michel. Je voudrais mentionner la parution du numéro de printemps de la revue Vent du Morvan, présente lors de la 14e fête du livre à Autun, un superbe magazine associatif qui revient dans son dernier numéro, entre autres, sur le prix littéraire du Morvan qui fête cette année son 50e anniversaire. La transition est toute trouvée car notre prochain interviewé est rédacteur à Vent du Morvan et il a reçu l'an passé le prix littéraire du Morvan Henri Perruchot pour son roman Clair de lune à Walpé. Je laisse la parole à notre paysan écrivain Jean-Charles Cougny qui nous présente La Parisienne, son tout dernier roman.
Alors là, il ne s'agit pas du tout d'un roman humoristique comme celui de l'année dernière. C'est un roman qu'on pourrait qualifier de terroir, mais qui se passe de nos jours. Un roman, une belle histoire d'amour. Donc, c'est la rencontre qui paraît au départ improbable entre une Parisienne en vacances, en résidence secondaire chez ses parents dans le Morvan, qui croise par un hasard tout à fait extraordinaire un paysan d'une quarantaine d'années qui est célibataire. Et puis bon, il va finalement, on va voir que ces deux êtres qui sont un peu, qui ont une solitude, vont trouver beaucoup de raisons de faire un bout de chemin ensemble. Bien sûr, au départ, tout le monde va s'opposer, hein, tous les éléments, toutes les familles vont s'opposer à cette rencontre, mais bon. Pour un coup, j'ai été assez optimiste. Et puis, surtout, ce que j'ai voulu montrer, c'est à travers ce roman, j'ai voulu montrer la beauté de notre métier d'éleveur qui est souvent attaqué, bon, pour des raisons d'écologie, pour des raisons de changement climatique. Donc, je crois que c'est un livre qui peut intéresser les paysans parce qu'ils retrouvent un peu leur métier, leurs combats, leurs difficultés. Et puis, ça peut intéresser aussi les Parisiens qui viennent en vacances dans le Morvan ou même plus loin, hein, même dans Lyon, enfin, je veux dire, dans la plaine. Il voit quand même ce qu'est le métier de paysan, les difficultés, mais aussi la beauté.
Jean-Charles Cougny, au micro de Radion, pour son dernier roman intitulé La Parisienne. Impossible de ne pas saluer les éditions de l'Armançon, présentes à la 14e fête du livre à Autun, qui s'est tenue les 16 et 17 avril. À mes côtés, deux des auteurs présents parmi beaucoup d'autres, les plus disponibles, peut-être les plus enthousiastes à s'exprimer devant le micro. On va commencer avec Claire Aronica, dont le dernier roman s'intitule « Entre les lignes » et paru donc aux éditions de l'Armançon. Alors après l'impossible armistice, Claire Aronica, vous changez carrément de genre littéraire. Vous passez au polar.
En effet, il s'agit d'un roman policier. Donc, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Georges, qui est un universitaire et qui au début du roman perd un de ses plus chers collègues qui lui laisse en guise d'étrange testament un article sur Simenon. Mais c'est un article bourré de fautes, et donc charge à lui de comprendre l'article, de l'interpréter, ce qui va le mener vers une quête un peu particulière, avec un but un peu particulier, dont je ne dévoilerai pas le contenu.
Claire Aronica, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs ?
Oui, je suis professeure de lettres dans un lycée de Lyon. Je vis à Lyon, donc j'ai deux enfants, petits.
Claire Aronica, donc « Entre les lignes », roman paru aux éditions de l'Armançon. Et mentionnons également donc votre avant-dernier roman, « L'impossible armistice », qui a obtenu un prix.
Oui, le prix du Lions Club pour la région Centre-Est, tout récemment, il y a quelques jours.
Bien, recevez toutes nos félicitations. Bravo Claire Aronica. À vos côtés, alors, une autre figure des éditions de l'Armançon, Ignacio Catalan, qui lui aussi a été récompensé.
Récompensé par le même prix, effectivement, pour mon tout premier livre à l'Armançon qui était Le Chant des Pierres. Et puis récompensé aussi pour un livre qui s'appelle Les Tailleurs d'Espérance qui a reçu le prix du Morvan Henri Perruchot en 2008.
Alors, Ignacio Catalan, vous récidivez aux éditions de l'Armançon avec un recueil de nouvelles qui a pour titre Petit métier bien tranquille.
Oui, donc les recueils de nouvelles, c'est un petit peu une respiration entre deux livres un peu plus sérieux. Celui-là s'appelle donc Petit métier bien tranquille, et l'important, c'est le mot, c'est les bien tranquilles qui est important dans ce titre, puisque il est quand même teinté d'humour noir. Le fil conducteur, donc, recueil de nouvelles, il faut un fil conducteur. Ici, le fil conducteur, ce sont les petits métiers morvandiaux, mais aussi universels d'ailleurs, qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître. Alors, sabotier, meunier, qu'est-ce qu'il y a encore charbonnier en forêt, sacristain, commis de ferme, enfin bon.
Galvaché?
Non, il n'y a pas de galvaché, exceptionnellement. J'ai oublié le galvaché.
Enfin, c'est plus du monde de l'agriculture que de l'artisanat.
Oui, mais enfin, j'ai un commis de ferme aussi, donc j'ai approché l'agriculture aussi. Bon, donc la description des métiers est le plus exacte, le plus précise possible, mais l'intérêt du livre est un petit peu dans cette teinte d'humour noir que j'ai donnée, et mes personnages, mes artisans ou gens de métier ont des comportements un peu étranges, disons. Ou alors, ils ont des outils particulièrement dangereux à certains moments. Voilà.
Ignacio Catalan, même question que celle précédemment posée à Claire Aronica. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu aux auditrices et auditeurs de Radion?
Alors, je m'appelle Ignacio Catalan. Je suis né bourguignon, comme mon nom le laisse entendre. Plutôt mal. En fait, je suis né à Arnay-le-Duc, en Côte d'Or. Donc, j'ai deux thèmes de travail. Disons des livres de terroir, quelque part, qui parlent de ma région, qui parlent d'Arnay, qui parlent beaucoup du Morvan, bien entendu. Et puis, mon autre face, je suis un peu comme Janus, vous savez, un côté léger, un côté plus austère, plus sérieux. L'autre face, ce sont trois ouvrages sur la sculpture médiévale bourguignonne, aussi sous forme de roman, bien entendu, mais toujours dans un contexte et dans un cadre historique le plus réel possible.
Ignacio Catalan, merci. Je rappelle le titre de votre dernier livre aux éditions de L'Arme en Fond, Petit métier, bien tranquille.
Merci.
Ils sont incontournables et présents avec différents éditeurs. Je pense à Sandra Amani. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Alors, inhabituée tout de même du salon du livre, de la fête du livre d'Autun, Sandra.
Oui, puisque celui-ci m'a accueillie dès la sortie de mon premier livre, mon premier roman jeunesse, en 2001.
Alors, bien sûr, il y a tes différents ouvrages aux éditions de l'Escargot Savant, même si le dernier ouvrage est aux éditions de Boré, Les Mystères du Nivernais.
Oui, exactement. Les Légendes du Morvan, par exemple, que je citerai.
Alors, tu nous présentes ton dernier ouvrage aux éditions de Boré, s'il te plaît, Sandra.
Les Mystères du Nivernais relate tout ce qui est mystérieux et anecdotique au sein de la Nièvre et du Morvan, je précise.
Très bien. Alors, Jean-Pierre Midaven,
bonjour.
Vous êtes auteur aux éditions de l'Escargot Savant et vous venez de faire paraître Révérence africaine, aventure d'un bourguignon dans l'Afrique des années 1970, comme diraient les Suisses, 1970. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux auditrices et auditeurs de Radio ?
Alors, je suis un voyageur, j'ai beaucoup voyagé pendant des années. Je reste voyageur puisque j'habite sur une péniche. J'ai écrit un premier livre qui m'a en quelque sorte fait un peu connaître, qui s'appelle L'écluse numéro 8, qui a eu la chance d'avoir le prix spécial de la ville de Dijon. Et puis lancé par ça, j'écris d'autres livres. Et puis on m'a proposé la réédition d'un livre que j'avais écrit précédemment, qui est un livre de voyage, un récit de voyage dans l'Afrique des années 70. Il se trouve que l'actualité nous fait un petit peu sourire, voire claquer les dents, puisque les endroits que je décris dans cette partie de l'Afrique, principalement la Côte d'Ivoire, eh bien, en ce moment, on tire au canon. Alors, c'est la raison pour laquelle, hier, on m'a interviewé sur ce sujet, puisque le monde change assez vite et les régions que j'ai pu visiter agréablement, eh bien, aujourd'hui, sont quasiment infréquentables, à moins de vouloir revenir la tête sous le bras.
Donc je rappelle Révérence africaine, donc le livre de Jean-Pierre Midaven aux éditions de l'Escargot Savant, et à vos côtés le gamin, un jeune homme, Philippe Ménager, vous aussi auteur aux éditions de l'Escargot Savant. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Bonjour à toutes et à tous, avec beaucoup de plaisir. Eh bien, professeur d'histoire et passionné de patrimoine bourguignon. Et c'est ce plaisir de communiquer que j'essaie de faire partager à travers ces ouvrages. Alors, qu'il s'agisse des canaux bourguignons, puisque c'est une région, la Bourgogne, qui a cette exceptionnelle chance d'être sur trois bassins versants différents, qui ouvrent sur trois mers différentes, et donc on a une concentration magnifique de canaux, qui sont des prouesses architecturales et techniques sans commune mesure. Et puis, un ouvrage plus grand public, peut-être, intitulé « Sites et monuments remarquables de Saône-et-Loire », où l'on trouve églises, châteaux forts, bourgs anciens, patrimoine industriel, sites naturels. Et le but, c'est toujours de communiquer cette passion et l'envie de dire aux gens « Émerveillez-vous de ce qu'il y a autour de vous. Vous allez voir, c'est riche, très riche, exceptionnellement riche et truffé de trésors. »
Installé en Puisel, les éditions de la Frémillerie, dont le nom bourguignon signifie la fourmilière, étaient présentes à la 14e fête du livre d'Autun. Nous avons à cette occasion rencontré son créateur et directeur, Tay Huyn. C'est avec enthousiasme qu'il nous présente les lignes éditoriales de la maison d'édition qu'il a créée, ainsi qu'un de ses auteurs présents à ses côtés.
C'est une maison d'édition qui date maintenant d'un peu plus de 3 ans, donc que nous avons créée dans Lyon pour mener à bien des publications sur 2 axes. Donc je profite de cette occasion pour vous les présenter. Il y a un axe qui est le roman, en plus particulièrement le roman d'aventure. Et ce que nous avons voulu publier, ce sont des romans écrits par des auteurs français qui n'habitent pas forcément Paris. Donc, d'où l'idée d'avoir des manuscrits d'auteurs français habitant à l'étranger ou en région.
Voilà, donc provinciaux et francophones.
Voilà, ça c'est notre premier axe. Des romans avec une intrigue forte. Donc, le deuxième axe, puisque je suis vietnamien, c'est de profiter des connaissances de mes amis, alors cette fois-ci parisiens, des intellectuels vietnamiens qui vivent à Paris, pour traduire en français des classiques vietnamiens qui n'ont pas été traduits jusqu'à maintenant. Voilà les deux axes de la maison. L'axe vietnamien, notre dernière publication a été sur l'histoire de Hanoï, la capitale du Vietnam. Et sur l'axe roman d'aventure, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, d'ailleurs, l'auteur. C'est en avant-première, les chroniques de Xin Tse, qui raconte justement la rencontre entre un chevalier errant chinois et l'appuisé, et à l'époque des croisés. Mais je pense que l'auteur lui-même vous en parlera mieux que moi.
Vous avez bien raison, puisqu'effectivement, il est à nos côtés. Il s'agit de Xavier Loprêtre, et il fait paraître donc aux éditions de la Frémirie. Donc c'est tout frais, hein, tout frais sorti des presses, les chroniques de Xin Tse, avec le sous-titre La Tour Sarrasine. Alors, Xavier Loprêtre, merci d'être devant ces micros. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter succinctement à nos auditeurs, quand bien même votre parcours professionnel est assez admirable?
Admirable, je ne sais pas. Je découvre le livre en même temps que vous, hein, donc je ne l'avais pas vu jusque-là. Oui, je vis en Puisaye. J'ai rencontré T en Puisaye, à Toussy. On s'est rencontrés comme ça. J'avais un manuscrit. C'est la rencontre un petit peu de la Puisaye et de l'Asie et de la Chine, parce que je fais depuis quelques années du tai chi. C'est une belle rencontre pour moi, le tai chi chuan.
Qu'est-ce que le tai chi?
Le tai chi, c'est un sport qu'on voit souvent dans des parcs. On voit des vieux chinois en train de faire ça. C'est une gymnastique lente. En fait, c'est un art martial, comme le kung fu, sauf que c'est très lent. On fait ça très lentement parce que on part du principe que on en profite plus, c'est bon pour la santé, c'est un meilleur moyen de dominer son art, il y a toute une histoire de souffle. Et tout ça, toute cette histoire, cette rencontre avec l'Asie, avec le tai chi, je l'ai mis un petit peu dans ce livre, avec la Puisaye, parce que ma deuxième passion, c'est la Puisaye. Je vis en Puisaye depuis 1996. J'y travaille, je m'occupe de la promotion de la Puisaye, je m'occupe de la communication du pays de Puisaye-Forterre. Et voilà, donc j'ai tout lié, et ça se finit dans la Tour Sarrasine.
Donc qui se trouve à côté du château de Saint-Sauveur en Puisaye, voilà, qui abrite le musée Colette.
Exactement.
Donc vous faites s'interpénétrer comme ça les cultures et les géographies.
Tout à fait. Alors ça m'a demandé quand même beaucoup de travail, à peu près 5 ans. Oui, 5 ans de travail avec beaucoup de documentation, parce que ce croisé entre guillemets chinois passe par la Palestine, c'est l'époque des Song, donc il fallait que je m'y connaisse sur l'histoire médiévale chinoise, sarrasine, arabe, et également du royaume franc, quoi, à l'époque. Donc ça m'a demandé énormément de documentation et de recherche.
C'était Xavier Loprêtre, auteur des chroniques de Xin Tse, paru aux éditions de la Frémirie, le catalogue complet de cette maison d'édition iconaise installée en Puisaye est accessible sur le www.lafremirie.fr, sans les accents bien sûr. La suite de notre compte-rendu de la 14e fête du livre d'Autun avec un franc-comtois. Il réside à Besançon, il a obtenu le prix Louis Pergaud en 2001 avec La lettre de Charlotte. Il est auteur et scénariste, ses romans ont pour toile de fond les deux grandes guerres mondiales, et il nous présente un de ses romans, 10h59, Henry Gunther, le dernier soldat américain tombé sur le sol français en 1918.
En fait, cette histoire m'a été contée par Pierre Lénard, qui est maire de Romanes-sous-les-Côtes, qui est également passionné, bien sûr, de cette Première Guerre mondiale et passionné d'histoire locale, et qui est guide à l'office tourisme de Verdun. Et ce monsieur est une sorte de découvreur d'histoire insolite. Et donc, quand j'ai été informé de ce projet, d'une part, d'écrire un scénario sur l'histoire de ce dernier soldat américain, et également d'écrire un livre, j'ai donné mon accord à la demande pour me mettre au travail. Donc je me suis rendu sur les lieux, en Meuse, à Romanes-sous-les-Côtes, qui est un petit village situé à peu près à 25 km au nord-est de Verdun. On est en Argonne, en fait. Et on a suivi avec Pierre Lénard les traces de la 79e division d'infanterie américaine dans laquelle combattait Henry Gunther. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'Henry Gunther, Henry avec un Y, c'est très américain, et Gunther, c'est germanophone. En fait, il vivait à Baltimore, dans le Baltimore Est, et il était, bien entendu, c'était un secteur, un quartier allemand, et il était mobilisé en 1918. La guerre est déclarée, les Américains déclarent la guerre à l'Allemagne en 1917, et il va être transporté par bateau à Brest. Il débarque à Brest en juillet 18 et il est tout de suite conduit sur le front. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'offensive Meuse-Argonne du mois de septembre jusqu'au mois de novembre 1918, c'est-à-dire les derniers mois de la guerre, où d'ailleurs les Américains ont perdu beaucoup de soldats.
Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion vous propose ce soir un compte-rendu de la 14e fête du livre qui s'est tenue à Autun les 16 et 17 avril dernier. Une occasion de découvrir les auteurs mais aussi des éditeurs. Marie-Thérèse Mutin, institutrice à la retraite, première femme, premier secrétaire de la Fédération socialiste en Côte d'Or durant 12 ans, elle a été maire de son village natal pendant 21 ans et élue au conseil régional et députée européen durant 2 ans, elle a créé les éditions Mutine, installées en Côte d'Or, qu'elle présente au micro de Radion.
J'ai créé en 1995 cette maison d'édition qui s'appelait les éditions Mutine à cause de mon nom et puis parce que je trouvais que ça collait bien avec ce que je voulais faire, sous une forme d'association, mais d'association de lecteurs et non pas d'association d'auteurs. C'est-à-dire que les lecteurs qui cotisent pour 42 euros en ce moment... reçoivent les livres que je vais publier dans l'année de leur adhésion. Voilà, ça veut dire qu'ils vont en recevoir 3 ou 4, sans rien débourser de plus. Ce qui permet d'avoir un lectorat fidèle, et puis un lectorat de... J'ai à peu près 150 à 200 adhérents, bon, et qui reçoivent donc les livres. On a déjà au moins, quand on tire un livre, la certitude d'avoir 200 exemplaires qui vont être lus. Lus, pas seulement achetés, mais lus. Nous, on diffuse, on participe à des salons, on fait des animations nous-mêmes. L'année dernière, on a fait le 15e anniversaire des éditions Mutines. Cette année, on vient de projeter de faire les 24 heures des éditions Mutines sur Dijon, c'est-à-dire... 24 heures non-stop avec les lectures et tout ça avec mes auteurs et mes adhérents. Parce qu'il y a des adhérents qui sont doués. J'ai des chanteurs dans les adhérents, j'ai des peintres. Donc on est une association un peu culturelle.
Alors il y a un titre qui semble bien marcher, qui est aussi récent, c'est Mamie H de Bernard Châtelet.
Mamie H,
la lettre H, Mamie
H. Qui est l'histoire d'une, à partir d'un fait divers d'ailleurs, l'auteur a... C'était une sexagénaire qui s'est, non, septuagénaire qui s'est fait arrêter pour deal, mais c'était un fait divers. Donc Bernard Châtelet, mon auteur, s'est demandé pourquoi cette grand-mère dealait, et donc il a à partir de ce fait divers adapté une histoire un peu policière, un peu et puis pleine d'humour, parce que Bernard Châtelet a beaucoup d'humour, mais qui dit quand même les choses, qui explique la raison pour laquelle cette pauvre grand-mère a été obligée de dealer.
Marie-Thérèse Mutin, créatrice et responsable des éditions Mutine, sans S à la fin de Mutine, n'hésitez pas à aller découvrir sur Internet le blog de cette maison d'édition associative. Et reconnu, partons à la rencontre de Barbara Moreau et du dessinateur de bande dessinée Chris Flamand, venu à Autun rencontrer le public et échanger avec leurs lecteurs. Barbara Moreau évoque son troisième ouvrage, J'arrive, bientôt disponible en librairie ou sur le site de l'association Kikebab.
Voilà, c'est la suite de Je pars et je vous emmène, le deuxième volume des chroniques d'une conteuse de mémoire. Donc dans Je pars et je vous emmène, j'avais raconté ce projet de tournée dans la Nièvre à la manière des troubadours d'antan, donc une mise en scène de mon livre C'est moi Gadine.
Avec le chapeau que l'on présente au public.
Avec le chapeau, voilà, à la fin, je faisais passer le chapeau. Donc dans une mise en scène de mon livre autobiographique, donc je joue sur les petites places des villages avec un chevalet, des cadres photos qui représentent mon grand-père. Et puis dans J'arrive, dans mon bouquin là qui vient de sortir, eh bien je raconte toujours la mise en place de ce projet que j'avais esquissé dans Je pars et je vous emmène.
Chris, vacances à Saint-Prix est épuisé. On en avait parlé dans Wagon Livre au mois de novembre l'année dernière sur Radion. Là, tu signes surtout Quand je serai grand, toujours inspiré de ton enfance, adolescence.
Vacances à Saint-Pré est épuisé. Moi-même, je me sens pas très bien, comme dit l'autre. Oui, depuis, ça fait déjà deux mois que Vacances à Saint-Pré ne se trouve plus nulle part, chez aucun libraire. Et d'habitude, quand on allait dédicacer à gauche, à droite, il y avait encore des vieux stocks. Là, c'est la première fois où je n'ai plus que du second album. Alors, ça fait plaisir. Ça veut dire que le premier a bien marché. Mais je lance un petit appel à mes éditeurs pour qu'ils lancent une troisième édition. Pas trop tard. Bon, parce qu'on me l'a beaucoup demandé aujourd'hui, en plus.
Espérons que les responsables de la maison d'édition Aquileos vont réagir rapidement. Voilà. Impression générale de cette fête du livre à Autun.
Ah, c'est toujours très amical. Moi, c'est bien parce qu'il y a je pense qu'entre le samedi et le dimanche, il y a un public un petit peu différent. Mais globalement, c'est un public de lecteurs. Ce sont des gens qui viennent, pas forcément en balade, comme dans pas mal de salons, dont je ne citerai pas le nom. Là, ici, ils viennent pour acheter et pour lire, ce qui est quand même très plaisant. Et puis, ce qui est très agréable, c'est de revenir, en ce qui me concerne, 2 ans après, et de voir des lecteurs me dire « Ah bah tiens, j'ai lu Vacances à Saint-Prix, je viens acheter le second album. » Des gens qui, 2 ans après, ne nous ont pas oubliés. Ça veut dire que les gens lisent et ont de la mémoire. C'est encourageant, quoi.
Chris Flamand, à l'instant au micro de Radion. Je rappelle le titre de l'album de Chris Flamand, sorti il y a un an, « Quand je serai grand », scénario de Chris Flamand, dessin de Julien Flamand, couleur de Muriel Dutertre et photo de fin d'album de Victor Flamand, un album BD disponible aux éditions Aquileos. Nous restons dans l'univers graphique avec Yasmouna Singhé, puisque ce jeune Autunois de 27 ans, formé aux Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône et de Dijon, également technicien en art appliqué, a pu faire paraître, grâce au soutien du conseil local Jeune Autunois, une bande dessinée qui a pour titre « Batterie faible ». Yasmouna Singhé revient sur le projet qui a guidé sa narration graphique.
Je suis arrivé à Autun à l'âge de 10 ans, donc en 93. Une ville qui m'a accueilli, qui m'a vu grandir, une ville à laquelle je suis vraiment attaché. Alors ici, nous avons décidé de rendre hommage, enfin je voulais rendre hommage à travers une narration graphique donc une bande dessinée qui parle d'Autun et de son
héritage en fait architectural et historique.
Exactement, à travers donc la pyramide de Kouar, qui est la pièce maîtresse de mon histoire.
Alors on le dit quand même pour les habitants de Lyon, oui, qui ne connaîtraient peut-être pas cette pyramide, donc étrange monument qui daterait du 1er siècle.
Voilà, exactement.
Et donc, qui est énigmatique, dont on ne sait pas grand-chose en
voilà,
fait.
Voilà, exactement. C'est un édifice assez énigmatique, mystérieux. Alors, on sait pas, on suppose que c'était une pyramide ou un tombeau ou quelque chose comme ça, mais bon, moi j'ai grandi à Autun, je le voyais assez souvent quand j'étais enfant. On venait avec des amis se poser à côté, donc j'ai vraiment un attachement personnel à cet édifice. Donc voilà pourquoi j'ai fait un récit qui met à l'honneur cette pyramide, cette pierre.
Et donc on déambule dans les rues d'Autun avec votre personnage qui finalement est un peu l'esclave de son téléphone portable, car le téléphone portable est au cœur de votre bande dessinée.
Voilà, donc mon histoire commence par la présentation d'un téléphone portable. Alors parce que je voulais justement amener un objet contemporain, c'est ce qui relie le héros de mon histoire à sa réalité. Donc voilà, c'est vraiment le téléphone portable, c'est l'élément, vraiment la ligne directrice de ma narration. On le retrouve au début et on finit aussi avec une approche du portable.
Alors, Yasmouna Singhe qui est avec nous donc, et qui parle de sa bande dessinée « Batterie faible ». Batterie faible, là encore, effectivement, la référence à la batterie du téléphone portable. Voilà. Cet homme qui est au cœur de votre narration graphique donc, est tellement préoccupé par son téléphone portable, sans doute en attente de SMS ou de visionnage de films ou autres éléments sur l'écran de son téléphone, en oublie un peu la réalité. Et il semblerait que le message implicite, en tout cas, de votre bande dessinée consiste à dire, mais ouvrez les yeux, regardez à l'environnement, regardez ce qui vous entoure, redécouvrez peut-être aussi l'histoire et la richesse de votre ville.
Voilà, moi je suis parti de l'idée que le portable peut nous détacher un petit peu, ça n'engage que moi, mais disons que ça pourrait un petit peu nous détacher de la réalité, mais j'ai pris vraiment une autre facette pour le présenter dans ma BD, puisque dans ma BD, le portable rattache le personnage à sa réalité. Dès lors qu'il le perd, il est complètement perdu. Alors c'est vraiment une observation. C'est vrai que je connais beaucoup de monde, des jeunes notamment, qui sont perdus sans leur portable. Alors ici c'est un petit vraiment une observation
ironique, voilà.
Ironique, mais sans prétention, vraiment sans donner de morale ou de réponse. Non, c'est juste une observation. Et moi-même, je suis acteur de ce phénomène. J'ai un portable aussi.
Alors, il y a un message engagé aussi, Yas, parce que la deuxième histoire, hein, il y a deux histoires dans votre bande dessinée. Voilà. La deuxième histoire a pour titre « Apparence ».
Voilà.
Et à travers des personnages qui sont juste dont les visages, enfin les traits du visage sont gommés, ils n'ont
exactement
pas de sourcils, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de lèvres. Vous dénoncez finalement le racisme, la discrimination. C'est aussi vous faites œuvre quelque part d'artiste engagé.
Oui, c'est une réflexion ou quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que j'ai toujours voulu parler de l'identité. Alors l'identité sociale. Ce qui m'a ramené également au rapport à l'autre, comment je suis perçu par les autres, donc forcément aussi au racisme, aux clichés, aux préjugés.
L'altérité, quoi, l'acceptation de l'autre avec sa différence.
Avec sa différence, et puis aussi, enfin, comment les gens peuvent discriminer, mais sans vraiment le savoir. Un racisme populaire, etc. Donc, c'est des choses que j'ai pu observer. Que moi, encore une fois, ça peut paraître engagé, mais disons que c'est, pour moi, c'est une forme d'observation. D'ailleurs, ma bande dessinée est très expérimentale. Je ne veux pas d'une bande dessinée avec une finalité ou un but. Je suis en permanence à la recherche de quelque chose. Ici, je parle d'un racisme que j'ai pu subir moi, mais que j'ai pu aussi également peut-être faire envers l'autre sans en être conscient, etc. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout ciblé en tant que victime ou quelque chose comme ça, pas du tout, puisque dans la BD on parle vraiment de toutes sortes de populations, de catégories sociales. Et pourquoi avoir gommé le personnage? D'une part parce que pour que les gens puissent s'identifier plus facilement à mes personnages dessinés. Donc.
Et puis Yas, vous gommez les personnages, mais vous gommez aussi certains mots,
voilà,
dans ce qu'on appelle familièrement les bulles.
Voilà, exactement. Alors oui,
il y a des mots. Raconte-moi une histoire sur les, et là il y a un trait noir à la place. Alors ça peut être sur les putes, sur les belges, voilà, sur les PD. On peut y mettre ce que l'on veut en fait.
Voilà, exactement. Voilà. Oui, voilà, c'était une censure assez brutale, mais je voulais que ça soit visible. Comme la censure du politiquement correct qui s'exerce aujourd'hui. Voilà, c'est le texte est barré avec un gros trait noir. Donc là, c'est pareil, les gens pourront mettre leurs mots à eux sur le texte, de la même manière qu'ils pourront mettre leur visage sur mes personnages.
C'était Yasmuna Singhe pour sa bande dessinée en noir et blanc intitulée « Batterie faible ». Réalisé en collaboration avec Mathieu Bayard et avec le soutien du Conseil local jeune autunois. Nous marquons un temps de pause musicale avant de nous retrouver d'ici quelques minutes. Excellente soirée à l'écoute de Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire.
You're the
La suite de Wagon Livre, consacrée ce soir à un compte-rendu non exhaustif de la 14e fête du livre qui s'est tenue les 16 et 17 avril dernier à Autun. Écrivain, biographe, journaliste, rédacteur en chef à Antenne 2, elle a aussi été responsable de l'émission Télématin, puis du service culture de France 2. Geneviève Moll est venue à la 14e fête du livre d'Autun présenter son dernier ouvrage intitulé Françoise Sagan racontée par Geneviève Moll aux éditions La Martinière. Une belle occasion de demander à la biographe de revenir sur l'auteur de Bonjour Tristesse, disparu en 2004.
Elle disait du reste, laissez-moi tranquille, je me tue comme je veux. Elle est morte à cause de ses dépendances, elle est morte à cause de ses excès. C'est vrai, elle avait, durant les 4 dernières années de sa vie, elle a subi 25 opérations. 25 opérations, parce que ses os étaient complètement effrités à cause de l'ostéoporose. Elle ne se soignait pas, elle ne mangeait pas, elle buvait beaucoup, elle avait beaucoup bu. Elle a beaucoup fait l'amour, elle était très amoureuse de l'amour. C'était une don Juan, elle n'avait pas de limites. Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes.
Et très généreuse aussi avec ses amis, généreuse. Parce que tout ce qu'elle gagnait, elle...
Elle a fini dans la misère et... Mais dans une misère quand même cossue, parce qu'elle a été recueillie par une femme qui a été très riche, qui lui a permis de finir tranquillement.
Pourrait-on parler d'une malédiction sur Françoise Sagan, dans la mesure où elle termine dans la misère comme un certain nombre d'écrivains au XIXe siècle, qui étaient des génies, mais qui ont été...
C'est une malédiction qu'elle a choisie. C'est ça, sa liberté. J'assistais à ses obsèques dans le petit cimetière au pied de Cajar. Et c'était terrible, parce que son cercueil était tout petit, tout petit. Le cimetière était tout petit.
Et la foule était immense ?
Non, la foule n'est pas immense, mais la foule venait de partout. De Bordeaux, de Toulouse, de Paris. Deux ministres sont arrivés en avion. Il y avait tous ses amis proches. Il y avait Bernard Franck, qui n'est pas encore mort. Il y avait, bien sûr, sa sœur Suzanne, il y avait Juliette Gréco. La sœur de Juliette Gréco, il y avait Florence Malraux, bien sûr. Il y avait tous ses amis, il y avait tous les gens qui l'ont aimé. Et puis il y avait les anonymes qui venaient de partout. Et c'était dans ce tout petit cimetière, c'était comme si on enterrait un peu notre jeunesse, quoi.
Et Sylvie Testud, dans l'adaptation télévisée de la vie de Sagan, elle est formidable.
Elle a été formidable. Elle a vraiment fait un travail de comédienne extraordinaire. Je n'ai pas beaucoup aimé l'adaptation parce que je la trouvais trop anecdotique. Mais Testu ressemblait à Sagan et elle s'est mise à ressembler à Sagan de manière presque indécente, tellement elle était. Elle s'est coulée dans le personnage. Oui, c'était très bien.
C'était Geneviève Moll qui raconte dans un bel ouvrage richement illustré la vie de Françoise Sagan, une femme moderne à travers laquelle s'écrit toute l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. C'est un livre disponible aux éditions La Martinière. De nombreux auteurs étaient présents à la 14e fête du livre organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois les 16 et 17 avril dernier à Autun, et parmi eux, le célèbre commentateur de matchs de football, Thierry Roland, 73 ans, venu présenter dans la capitale éduenne son livre « Mes 13 Coupes du Monde » aux éditions du Rocher.
Puisque je suis dans une région qui en fait du très bon, j'aime beaucoup le bon vin, par exemple. J'aime beaucoup un bon repas, j'aime bien une bonne pièce de théâtre, aller au cinéma, j'aime bien une réunion entre amis. J'ai beaucoup de points d'intérêt.
Alors, vous êtes ici à la 14e fête du livre d'Autun avec votre ouvrage « Mes 13 Coupes du Monde » aux éditions du Rocher. 13 Coupes du Monde, toujours le même attachement, la même passion sur les joueurs dans un univers du football un peu douteux.
Oui, qui a changé. Mais je crois que le jeu est resté pour moi une grande passion. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Pourtant, je suis pas venu au monde dans une famille sportive. Mes parents n'étaient pas des grands spécialistes du sport, mais bon, moi ça a été ma passion et j'ai coutume de dire que, en fait, je crois que j'ai appris à lire en lisant l'équipe, quoi, vous voyez. Et ça a fait que j'ai eu la grande chance, parce que je dis que c'est toujours un grand cadeau du bon Dieu, de faire de ma passion mon métier.
Alors tout récemment, on a vu Domenech réclamer au prud'homme de l'argent. Tout ce monde du football dominé par trop d'argent, pardonnez-moi la question parce que j'imagine que d'autres personnes doivent vous la poser. Vous ne pensez pas qu'il y a une corruption du monde du football, que quelque part il y a quand même beaucoup d'excès face à une société qui souffre?
Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on n'a jamais vu un joueur de football mettre un revolver sur la tête du dirigeant pour lui prendre l'argent qu'il va lui donner. Si vous voulez, c'est l'offre et la demande. Les joueurs aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Certains diront peut-être même trop d'argent. C'est un sport professionnel. Alors dans les sports professionnels, il y a de l'argent. Il y en a par exemple, si vous voulez, dans la voiture, dans le golf, dans le tennis, dans la boxe. Enfin, dans tous les sports qui sont professionnels, il y a de l'argent. Là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a trop, je pense. Mais que voulez-vous, c'est la plaie des temps actuels. Mais je crois que il faut aller au-delà de ça et rester passionné par ce qui est le jeu. Parce que le jeu de football est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Parce que, si vous voulez, un match de football n'est jamais pareil, n'est jamais comme le précédent. Il se passe toujours quelque chose. Et rien que pour ça, ça vaut le coup qu'on se passionne pour ce sport.
Thierry Roland, vos impressions sur cette 14e fête du livre à Autun?
C'est très sympa. J'étais venu à Autun, je crois, il y a une vingtaine d'années. J'étais venu faire un combat de boxe ici. Ça avait été même la première défaite d'un grand espoir de l'époque qui s'appelait Laurent Boudouani, qui avait été battu ici. Et j'étais pas revenu depuis. Et c'est vrai que Autun est une petite ville très sympa. Et ce salon du livre, on a des contacts avec les gens qui sont extrêmement chaleureux.
C'était le journaliste sportif Thierry Roland, au micro de Radion. Nous terminerons cette émission avec Vincent Roca, chroniqueur de l'émission de France Inter « Le fou du roi », présent lui aussi à la 14e fête du livre d'Autun où il dédicaçait son dernier livre récemment sorti aux éditions Chifflet et compagnie, « Tout Roca, sinon rien », préfacé par Guy Bedos. Le métier de chroniqueur est certes plaisant, mais c'est, dans une certaine mesure, un métier à risque, Vincent Roca.
Oui, métier à risque, parce que voilà, l'écriture chez moi n'est pas du tout automatique, donc il faut aller chercher les mots un peu... C'est un peu du travail à la mine, hein, il faut descendre profond, creuser, chercher. Voilà, donc c'est des belles... il y a des petites angoisses comme ça, parce que pendant une journée, on écrit, on ne sait pas du tout où on va, et puis voilà, d'un coup, il y a un petit fil qui semble émerger, et on tire sur le fil, et à partir de là, le plaisir d'écriture vient, et là, ça, c'est aussi, voilà, c'est moitié souffrance, moitié plaisir.
Alors, avant d'être la voix et le chroniqueur du Fou du Roi sur France Inter, vous avez embrassé une carrière d'enseignant de mathématiques.
Voilà, je l'ai embrassé, pas sur la bouche, mais je l'ai embrassé. Mais vous savez, être enseignant, c'est un peu comme du spectacle. Voilà, il faut séduire une classe comme on séduit un public. L'avantage, c'est que le public revient hein, quand on est prof. Hein. Il revient le lendemain, il est toujours là. Bon, ils applaudissent rarement, il faut dire. Voilà, mais ouais. Moi, je me suis posé la question parce qu'on me l'a posé. Je pense que ma manière d'écrire n'est peut-être pas étrangère à ma formation scientifique. Cette façon, j'ai une logique dans la tête d'aller au fond, de triturer les mots dans tous les sens, d'avoir cette passion de l'exhaustivité. Voilà, donc ça ne doit pas être étranger. Il y a d'ailleurs, moi j'ai baigné dans Boris Vian, dans Bobby Lapointe, tous ces gens-là étaient des scientifiques de formation bizarrement. Voilà.
Que lisez-vous?
Que lis-je?
Votre dernière lecture? Il n'y en a peut-être pas eu.
Si, alors je lis un type étonnant qui s'appelle Éric Chevillard. Voilà, qui a une écriture très contemporaine. C'est un type qui a une quarantaine d'années, mais très, très beckettienne.
Aux éditions de minuit,
oui. Voilà. Et un humour incroyable, un petit peu austère par moment, parce que voilà, il enfonce le clou et. Il n'y a pas de grâce, c'est vraiment une écriture précise, sèche et tout, mais j'aime beaucoup ce style-là. Voilà, donc j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il a aussi il utilise le support internet, puisqu'il a un blog, et tous les soirs à minuit, il met sur son blog trois pensées du jour, enfin trois petits, c'est même plus que des pensées, parce que ça peut prendre une dizaine de lignes parfois. Ça s'appelle l'autofictif. Et donc, tous les jours, on peut aller trouver les trois dernières petites nouvelles d'Éric Chevillard. Et c'est un malin, parce que depuis 4 ans qu'il fait ça, à la fin de chaque année, il sort un bouquin avec où il reprend toutes ses... Voilà, c'est un type que j'aime bien.
Avant de nous quitter, je souhaite remercier Dominique Goujon, la présidente de l'association Lire en Pays Autunois, et sa vice-présidente, Jocelyne Bernot-Perdreau, qu'elle reçoive, ainsi que tous les membres de Lire en Pays Autunois, nos chaleureux remerciements pour avoir rendu possible nos entretiens pour l'émission littéraire de Radion. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 4 mai à 21h, pour un autre numéro de Wagon Livre. Excellente fin de soirée à l'écoute du programme musical de Radion. Merci de votre attention. Au revoir.